cours de philosophie première le 21 octobre 93 à Saint-Jodard par le père Marie-Dominique Philippe.
Nous avons essayé de voir comment, de l'intérieur même d'une philosophie commence par l'expérience, l'expérience au sens le plus fort, c'est-à-dire l'intelligence liée à nos sensations, l'intelligence pénétrant nos sensations, les transformant, qui sont des sensations humaines. Je ne sais pas comment l'animal voit la vache regardant le TGV qui passe. Elle ne pense pas, mais elle y a une impression. Est-ce que la vache ou le singe, si vous aimez mieux, dépasse la simple émotion de la sensation, le frémissement de la sensation, ce contact avec une réalité extérieure en mouvement. Et plus les sensibles communs sont forts, c'est-à-dire plus la vitesse est grande, plus les sensibles propres disparaissent. Elle ne dépasse pas la vache. Finalement, elle ne m'a pas fait de confidence. Pour vous non plus. C'est ça qui est très difficile, de savoir ce qui se passe. Et on peut quand même comparer. Il reste des animaux, la vache demeure uniquement dans un contact sensible. Il n'y a pas d'éveil à l'intelligence. Ce dépassement du sensible qui atteint ce qui est. Que nous pouvons-nous constater ? Interne et première, mais sans exclure, sans abandonner l'expérience externe de la matière. hommes qui coopèrent avec moi. Les trois grandes expériences internes, mais qui, toutes les trois, me font toucher et atteindre une réalité extérieure à moi. Et chaque fois différente. Et puis cette naissance à une recherche de la vérité pour elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette matière que je dois connaître avant de la transformer? Qu'est-ce que c'est que cet ami vivant qui est l'homme? Ceci est, je suis. Quand je prononce ceci est, quand je dis ceci est, je dis en même temps je suis. Vous voyez, le très grand danger, c'est de rester à ce qu'Aristote appelle le legetai, la parole. Et c'est peut-être pour notre monde d'aujourd'hui l'obstacle le plus grand à pénétrer dans la métaphysique. Parce que le rival de la métaphysique, saint Thomas le montre admirablement, c'est la logique. La logique s'arrête au langage. La logique se thématise par le langage. Le legetai grec. Ceci est dit, je dis, ceci est. Vous voyez, c'est pas la même chose de dire je dis, ceci est. Et puis dire ceci est. Quand vous dites je dis, ceci est, vous regardez la proposition, le legetai, ce qui est dit, qu'est-ce qui est dit, je suis, ceci est. Ou au contraire, quand vous désirez et quand vous voulez atteindre le contenu de ce qui est dit, c'est assez subtil et en même temps c'est très simple. Voir la différence entre les deux. Et la grande tentation que Parménide avait très bien senti, que Platon a très bien senti, qu'Aristote a très bien senti, chacun de façon différente. La différence entre ce m'arrêter au revêtement que je fais la réalité. Par ma parole, j'habille. On habille la réalité. On met un vêtement sur la réalité. Et je suis capable de m'arrêter à ce vêtement qui m'intéresse beaucoup puisque c'est moi qui le dis. Dans une prise d'habit, on peut s'arrêter à l'habit, on peut regarder celui qui reçoit l'habit. De considérations tout à fait différentes. Je peux m'étonner, cet habit extraordinaire, complètement changé. Il a reçu un habit. Il est dénommé par cet habit. Il est dénommé par cet habit. de cet habit. Ou je peux dire, mais oui, c'est la même personne qu'avant. C'est curieux. Il avait un habit civil avant, le vieil homme, l'habit du vieil homme, l'habit du monde. Et puis l'habit qui signifie tout à fait autre chose. Il entre dans une autre catégorie. Mais c'est la même personne. Alors, est-ce qu'il est changé intérieurement? Ou est-ce qu'il n'est pas changé? Si vous receviez l'habit avec le désir de ne pas changer, c'est un mensonge. Voyez où se situe le mensonge? Dans ce hiatus différent entre l'habit par où je dénomme quelqu'un, dénomme, on dit, et puis la réalité. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Parménide a très bien saisi, et c'est intéressant puisque c'est la première fois que c'est saisi entre le dire, le penser et l'être. Normalement, quand je dis ce que je pense. Et je pense quoi? La réalité. Normalement, ma pensée est relative à l'expérience, la réalité. Alors vous voyez que le fait de dire, renvoie à ma pensée, et ma pensée renvoie à la réalité. Je ne peux pas couper, séparer ma pensée de la réalité connue. Je ne peux pas séparer ce que je dis de ma pensée. Normalement, ça se tient. C'est extraordinaire de réponse de Jésus. savez. Même on gagne énormément là-dessus. Ce sont des gens extrêmement intelligents qui font des spéculations. Évidemment, la réalité derrière est toujours présente. Où c'est l'or, le dollar qui sert de mesure pour toutes ces spéculations. Mais c'est quand même quelque chose différent de la réalité que conventionnellement tout le monde accepte. Et il y a des monnaies qui sont plus conventionnelles. Les monnaies des pays qui ont été appauvris et terriblement appauvris. Il n'y a plus de couverture. Il n'y a plus que la monnaie. Là, tiens, non, elle te l'a. Cette monnaie-là, non, ça ne passe pas. Les pays cultivés. Laisse tomber ça. Alors, c'est une histoire d'intrants. C'est la langue pour eux. Petite tribu. C'est très astucieux d'avoir fait cette analogie. Et malgré cette analogie, les philosophes tombent dans le panneau. Ils font la philosophie du langage. Et leur philosophie, la plupart du temps, ne dépasse pas cela. Ils restent au niveau logique. Des relations logiques. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à connaître? Est-ce que c'est le langage? Ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est l'homme qui m'intéresse? Ou est-ce que c'est le langage de l'homme? Le langage de l'homme m'intéresse beaucoup, mais c'est pas la philosophie, c'est la philologie. Voir comment l'homme est arrivé à aboutir à telle langue. La diversité des langues, ça a toujours troublé beaucoup les pays. Hein. La tour de Babel, le mythe de la tour de Babel. Un mythe divin pour le croyant, pour le philosophe, le mythe de la tour de Babel. Il faut expliquer comment les hommes ont eu diverses monnaies. Comment les hommes ont eu divers langages. Alors que ce serait tellement plus simple d'avoir une seule monnaie. Mais comme c'est difficile, quand il y a la diversité, de revenir à l'unité, c'est quasi impossible. C'est extrêmement curieux, ça. C'est un phénomène extrêmement intéressant. Et bien ce phénomène, on le touche pour la naissance de la philosophie et pour la naissance de la métaphysique. Est-ce que ma métaphysique repose sur le langage ou est-ce que ma métaphysique repose sur la réalité? Est-ce que ma métaphysique repose sur le fait que je dis ceci est de diverses manières? Je suis un être qui travaille. Je suis un être qui aime. Je suis un être capable d'avoir beaucoup de relations et de me servir de ces relations. Le verbe « je suis » prend des modalités différentes. Alors, est-ce que c'est ça que je regarde en premier lieu, ou est-ce qui m'intéresse, c'est de voir l'activité de l'homme qui travaille? Évidemment, je le dis. Et le fait de le dire précise ma pensée. Et ma pensée n'est pas adéquate au réel. Il y a une abstraction. Vous voyez, comme c'est compliqué. Je passe du réel à la pensée, abstraction. Je passe de ma pensée au langage conventionnel. C'est pas la même chose du tout. Entre la pensée et la réalité, il y a un signe naturel. Entre la pensée et le langage, il y a un signe conventionnel. Les hommes s'unissent par la pensée et les hommes se divisent par le conventionnel. Quand il n'y a plus que le conventionnel, langage. Je dois dépasser cela et atteindre le réel, présent dans toutes mes expériences internes et externes, présent dans ma manière de parler. Alors je peux m'arrêter, voyez. Il y a deux grands obstacles à dépasser. L'obstacle de la parole. L'obstacle de la pensée. Quand je dis obstacle, faisons attention, parce que je parle, et pour vous communiquer ma pensée, je suis obligé de parler. Je pourrais faire des gestes, mais pas commode d'exprimer par geste l'être. Pas commode. Pas comme en vrai. La vache, ça va encore. vertu du langage, le verbe être est toujours second. Si le langage était la réalité, il n'y aurait pas de philosophie première. La philosophie première disparaît. Et le langage n'est qu'un signe. Alors, comme le langage n'est qu'un signe, à travers le langage, je dois rejoindre la réalité. Parce que je fais la philosophie de ce qui est de la réalité et pas du langage. Si je faisais la philosophie du langage, je ne saurais jamais ce qu'est l'homme. Je ne saurais qu'une seule chose. Le langage. Ce que l'homme est capable de dire, ce que l'homme est capable de dire n'égale pas l'homme. Prenez l'exemple très simple qu'on a tous sans doute expérimenté. Quand vous allez voir une exposition de tableau ou une exposition de sculpture, vous regardez les œuvres. Et si ces sculptures et ces tableaux vous intéressent beaucoup, vous restez très attaché à ça, c'est très intéressant. Et on vient vous dire, l'artiste va venir. Alors est-ce que vous dites à ce moment-là, vous avez dit, ah, c'est ces œuvres qui m'intéressent? Normalement, là, c'est intéressant. Ah oui, je viens parler un petit peu et puis voir un peu ce qu'il dit. Il y a un passage de l'œuvre que vous regardez, et puis l'artiste. Et quelquefois, c'est terrible. On passait de l'œuvre de Claudel à Claudel. C'était pas la même chose du tout. J'ai fait l'expérience, et je vous affirme, c'était la douche d'eau froide. Quand vous travaillez, votre respiration, c'est quelquefois sublime, votre respiration. Claudel répondait, il me l'a dit, j'ouvre le robinet 1 heure par jour et je le ferme. Alors vous êtes frais avec ça? Alors en métaphysique, j'ouvre le robinet. C'est-à-dire que je regarde le langage, je le ferme. Quand je veux, c'est conventionnel. Alors, il faudrait encore ajouter, parce que c'est intéressant, ça fait partie de ces confusions qu'on fait aujourd'hui. La grande confusion qu'on fait aujourd'hui, c'est d'identifier le langage à une œuvre artistique. Le langage devient une œuvre artistique chez le poète. La matière du poète, c'est le langage. Il transforme. Et aujourd'hui, avec Heidegger, alors c'est là où il y a quelque chose de très, très subtil et très important à comprendre. Parce qu'on tombe tous dans le panneau. C'est à partir de là qu'est née l'herméneutique, l'interprétation. On considère que le langage, c'est comme l'œuvre d'art. C'est très intéressant de comprendre, de voir l'artiste. Mais quelquefois, ça ne me fait absolument pas comprendre. L'œuvre d'art s'impose pour elle-même. On la regarde. On la contemple. On est saisi par elle, on est possessif du tout. dans le génie de l'autre, enfin, on pense comme ça. Quel est le lien? Quand je lis Aristote, si je reste uniquement au langage, il y a très longtemps que ça a été écrit. Aristote a écrit pour transmettre sa pensée. C'est un philosophe. Pas pour la beauté du langage. Pour transmettre sa pensée. Et donc, si en lisant Aristote, je ne rejoins pas la pensée d'Aristote, je comprends rien. Alors, c'est ça qui a été ce fameux passage à l'herméneutique. Parce que on a mis entre parenthèses la pensée. Et on est revenu au troc. Voyez, c'est né. Vous allez tout de suite comprendre et puis transposer après en voyant la philosophie qui est derrière. Et je crois que c'est très important pour nous. Pour faire de la philosophie, il ne faut pas rester au langage. Si vous apprenez des mots, vous n'y comprenez rien. Il y a un langage, c'est évident, chaque philosophe a son langage. Donc petit à petit, vous vous adaptez à un langage philosophique, tout à fait d'accord. Mais on ne reste pas seulement au langage. Chaque fois que je vous parle, vous devez vous repenser ce que je dis par votre propre pensée et votre propre expérience. Puisqu'en réalité, c'est toujours l'expérience qui rejoint le réel. L'herméneutique a commencé par le fait qu'on a vu que la source de la révélation pour nous, c'est le Christ. Et que les évangiles ont été écrits 20 ans, 30 ans après. Comment expliquer ce passage? Alors quand c'est 2000 ans, et la moitié, encore 500 ans. Pour Aristote, hein, ça fait 2400 ans. Comment rejoindre la pensée d'Aristote avec ce langage? Je peux très bien ne pas chercher à repenser la pensée d'Aristote et puis simplement regarder le langage. Dans le structuralisme, c'est ce qui se passe. Je regarde la phrase qui se tient par elle-même, et j'essaie de comprendre, sans voir que toute parole provient d'une intelligence. Et c'est cette intelligence qui pense que j'essaie de rejoindre. Et par cette intelligence qui pense, je rejoins la réalité. Dans l'herméneutique, au plan théologique, au plan exégétique, comme c'est né à l'intérieur du protestantisme, on a voulu construire un pont entre Saint-Luc et Jésus, entre Marc et Jésus, entre Jean et Jésus. Mais alors, ça devient phénoménal, puisque Jean écrit vers l'an 98 son évangile, et Jésus est mort vers l'an 30, 33. Comment combler ce hiatus? Les catholiques ont comblé traditionnellement ce hiatus par la tradition. Marie gardait tout dans son cœur. Il y a la tradition, une tradition vivante. Le jour où vous supprimez la tradition, il faut l'ersatz de la tradition. c'est vous qui dites ça. C'est une opinion scientifique. Alors voyez comme la foi est sabrée dans son fondement. Et je crois que c'est très très important de comprendre ça. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est la foi chrétienne, la foi catholique, qui s'appuie sur la parole de Dieu et la tradition. La tradition est source de révélation. Alors, au plan philosophique, hein, il n'y a pas la révélation. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'écriture qui est témoin. Quand je raconte des histoires, je suis très dépendant du contexte. Quand je fais une philosophie politique, je suis très dépendant du contexte. La politique d'Aristote dépend beaucoup plus du contexte historique que sa métaphysique. Pourquoi ? Parce qu'en métaphysique, il veut justement dépasser complètement le point de vue historique. L'être n'est pas historique. L'être, il est transhistorique. Il est. Qu'est-ce qui est historique ? Le devenir. Alors vous voulez dépasser le devenir et saisir l'être. L'être n'est pas historique. Il est apparu dans un contexte historique, mais en lui-même il n'est pas historique. Alors vous voyez que si vous n'arrivez pas à rejoindre la pensée du philosophe, vous ne pouvez plus rien dire, parce que l'être est relatif, ou plus exactement, c'est ce qui détermine la pensée. La pensée est relative à l'être. Quand il s'agit de la philosophie première, je suis devant un écrit qui passe le temps. C'est extrêmement curieux, ça. Je suis devant un écrit qui dépasse le temps et qui veut dépasser le temps et qui veut être transhistorique. Vous voyez, je touche là quelque chose qui me semble extrêmement important à saisir. Si je suis au niveau de la parole est dans le temps. L'écrit est dans le temps. Mais la signification de l'écrit et la signification de la parole est transhistorique. Alors, si j'ajoute à la parole l'écrit, vous voyez, parce qu'il y a la réalité, la pensée, le dire, l'écriture, hein, vous respectez tous ces moyens. La pensée renvoie, l'écriture renvoie à la parole renvoie à la pensée renvoie à la réalité. Et donc, l'herméneutique va jouer beaucoup. L'herméneutique, c'est-à-dire expliquer en fonction de tout le contexte historique dans lequel je suis, joue un très grand rôle pour des écrits qui sont politiques. transmet par l'écrit. Ce qu'il y a de merveilleux dans la révélation, c'est que l'Esprit Saint se porte garant. Tandis qu'en philosophie, l'Esprit Saint ne se porte pas garant. Et donc je suis seul. Et je recherche la vérité. Alors si je recherche la vérité, est-ce que je suis quelqu'un qui a découvert l'existence de Dieu? Je sais que Dieu est le père de mon intelligence. Et donc quand je recherche la vérité, j'ai un soutien de Dieu. Et ça je peux le dire. Dieu m'aide à découvrir la vérité, puisqu'il est mon père. Il est le père de mon intelligence. Et mon intelligence ne vit que quand elle est dans la vérité. L'intelligence, quand elle est dans les opinions, ne vit pas. Elle répète. Elle répète. Tandis qu'elle vit, parce qu'elle touche la réalité. Est-ce que l'homme, dans ce qu'il a de plus profond, a-t-il changé depuis Aristote? Il a changé dans son contexte extérieur, historique. Il n'y avait pas d'électricité. Est-ce que l'électricité fait changer l'être? Est-ce que l'électricité fait que mon intelligence n'est plus la même? L'électricité conventionnelle, c'est très conventionnel l'électricité. C'est pour ça qu'il y a on peut évaluer la dépense d'électricité. Tandis que la dépense de l'intelligence est plus difficile. Vous avez cogité pendant tant de temps la journée. Moi, quand je cogite, l'heure, ça coûte très cher. Tandis que si je me sers d'électricité, oui, je peux calculer le prix. Est-ce que l'électricité fait toucher, fait modifier ma pensée? Oui, ça peut modifier en ce sens que grâce à l'électricité, je peux travailler plus tard. Et à partir de telle heure, la fatigue étant, ma pensée est moins pénétrante. Et alors j'ai écrit cette lettre à 1h du matin, j'étais très fatigué. Et donc, je note 1h du matin. Tant mieux qu'Aristote n'ait pas écrit. Mais pour lui, on dormait plus. On veillait plus, on méditait plus, il n'y avait pas l'électricité. Ah, l'électricité fait diminuer la pensée, oui, ça sûrement. Donc là, ça modifie. Parce que je peux travailler plus longtemps. Alors, vous voyez, hein, entrer en métaphysique, c'est dépasser tout ce conditionnement. Le conditionnement de l'écriture, le conditionnement de la parole, le conditionnement de ma connaissance, qui si facilement demeure dans l'abstraction, dans mes idées. Mes idées sont abstraites. Or, mes idées ne me permettront jamais de rejoindre l'être. Jamais. L'idée d'être n'est pas l'être. C'est ce que Heidegger revendique avec force. Et il a raison. Et on a fait, à un moment donné, on a identifié l'idée d'être et l'être. Quand on dit la métaphysique commence par l'idée d'être, Suarez dit ça. L'être infini, l'être fini. Mais ma métaphysique ne commence pas par l'idée d'être. L'idée d'être est un sous-produit. C'est second. C'est pas premier. Ma métaphysique commence par un jugement. Et un jugement qui atteint la réalité. Ceci est. Et je peux encore m'arrêter à mon langage en disant ma métaphysique, c'est d'étudier le langage. Non, c'est la logique. Ne confondez pas métaphysique et logique. Vous pouvez très bien les confondre parce qu'ils ont même extension. Alors si vous êtes un être très quantitatif, l'extension, c'est tout. Ah non, l'extension. ce n'est pas tout. La pensée est au-delà de l'extension. C'est la pénétration. C'est l'intensité qui compte. L'intensité de la pensée. Je suis capable de dépasser mon langage, de critiquer mon langage, et de voir que le langage est inadéquat à la pensée, et que je dois dépasser cet aspect conventionnel du langage. Et une fois que vous avez dépassé cet aspect conventionnel du langage, peu importe que vous soyez langue grecque, langue latine, langue française, langue allemande, langue anglaise, sans aucune importance, tout ça c'est du relatif. Je veux penser en atteignant la réalité, ceci est. Et là, je suis au-dessus de tous ces conditionnements. Et ça, c'est un effort personnel. Je peux vous dire tous ces obstacles, mais je ne peux pas vous permettre de les dépasser. Je ne peux pas, plus exactement, faire que vous les dépassiez. Je peux vous aider à les dépasser en montrant tous ces obstacles. Et c'est à l'égard de ce jugement d'existence qu'il y a le plus d'obstacles. Tous les obstacles sont réunis là. C'est pas étonnant, puisque c'est la naissance de mon intelligence relative à l'être. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Mon intelligence naît comme intelligence, comme quand elle touche l'être. Tant qu'elle n'a pas touché l'être, mon intelligence est une marmotte. Elle dort. Elle est ensevelie. Elle reste au niveau des formes. Petit cochon, petite vache. Elle n'atteint pas que ceci est. Elle atteint peut-être des formes magnifiques, étonnantes, artistiques, le Panthéon. Notre-Dame, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Elle regarde l'Himalaya, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Ah, le Mont Blanc, quand on n'a pas vu l'Himalaya, ça c'est bien, mais quand on l'a vu, pouf, sur la diff. Mon intelligence dépasse toutes les formes et saisit ceci est. Or, l'Himalaya existe, le Mont Blanc existe, tiens, ils sont communs dans l'existence. Et Raïssa a eu l'intuition de l'être quand elle a vu que le chat existait, qui était là. Miné était là. Et Raïssa était assise à côté. Et Miné regardait Raïssa et Raïssa regardait Miné. Et elle s'est dit à ce moment-là, c'est le même être, le chat et moi. Mais c'est tout à fait différent. Là, intuition de l'être. Est-ce que c'est l'intuition de l'être? Non. C'est l'intuition de cette relation. Alors, voyez ça qui est intéressant. C'est en disant intuition de l'être, vous ne saisissez pas l'être. Vous saisissez la relation qui existe entre exister et le chat. Exister et je suis. Raïssa a dit je suis. Et le chat existe. Est-ce que mon existé et celui du chat est le même? Oui et non. Alors, oui et non, on saisit quelque chose de commun. Et on saisit quelque chose de divers. Alors, est-ce que c'est l'intuition de l'être? Non, c'est pas l'intuition de l'être. C'est l'intuition de relation commune entre l'être et le chat, et l'être et le... Donc je sais si qu'il y a quelque chose de commun, donc je sais si bien, il y a bien une intuition. Oui, je suis tout à fait d'accord, une intuition dans la diversité des relations qui existent entre l'être. travers cette diversité. Alors là, il y a une certaine intuition. Et cette intuition, elle aide énormément à aller plus loin, à saisir quelque chose de plus profond. Je suis. Ceci est. C'est pas une intuition à ce moment-là, c'est un jugement d'existence. Et pourquoi c'est pas une intuition? Parce que je ne connais pas l'être dans toute sa profondeur. Si j'avais l'intuition de l'être, j'aurais l'intuition de Dieu. Parce qu'il y a une clarté absolue sur l'être. Et au fond, c'est ça que tous les philosophes cherchent. Quand Descartes parle de l'idée innée de la liberté, et qu'il voit que cette liberté que Descartes possède et que Dieu possède, c'est la même. Il a l'intuition de la liberté. D'avoir l'intuition de la liberté, ce n'est pas connaître la liberté. C'est connaître le rapport commun qui existe entre Descartes et libre. Dieu est libre. Oui, oui, mais tout à fait différemment. Alors, au point de vue de l'intuition, je dis bien, il y a quelque chose de commun. Mais ce quelque chose de commun, si je ne vois pas tout de suite la diversité, c'est extrêmement dangereux. Je tombe dans une nivosité. L'intuition conduit à l'univosité. Si elle n'est pas corrigée immédiatement par la diversité des jugements. Et cette diversité des jugements, ceci est, le chat existe, Raïssa existe, j'existe, je suis. Tout de suite, je vois la diversité, et voyant la diversité, je dépasse l'intuition pour me dire, c'est ça que je dois atteindre, ceci est, je suis. Donc vous voyez comment la philosophie première, la métaphysique, naît à partir d'un jugement d'existence et non pas à partir d'une intuition. Parce que je n'ai pas l'intuition de l'être. Parce que je ne saisis pas, je n'ai même pas l'expérience tirée de l'être. C'est dans un jugement que je pose ceci. Je n'ai pas une... J'ai un concept d'être, oui, un concept analogique, toujours lié au jugement d'existence. Et le jour où vous séparez ce concept d'être du jugement d'existence, vous retombez dans un aspect générique et univoque. Votre concept d'être devient le concept le plus commun de tous. C'est l'aspect générique. C'est l'aspect œcuménique de la métaphysique. Mais ce n'est pas la métaphysique. L'œcuménisme n'est pas l'Église. L'Église est un mystère. L'œcuménisme, oui, c'est une manière de rassembler la diversité avant l'unité. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, il y a là un nœud qui est capital à saisir. Si on ne saisit pas ce nœud, on restera toujours dans le léguétail, dans le dire. On restera dans l'intuition, donc la relation. La relation, c'est pas l'être. La relation, c'est même l'être le plus débile. Alors votre métaphysique sera très débile. Elle n'arrive pas à se tenir par elle-même. Mais comme c'est difficile, parce que c'est séduisant, l'intuition, c'est très séduisant. C'est la dernière séduction. C'est la séduction qu'il faut dépasser pour arriver au jugement d'existence. Alors, voyez, notez tous les obstacles. Et ils sont nombreux. Avant d'arriver à cette chose tout à fait primitive, où vraiment l'intelligence commence à respirer. Et la première respiration du petit enfant quand il vient de naître, où il commence à avoir sa vie autonome. La première respiration de l'intelligence. conditionnement psychologique, de tout le conditionnement affectif, cette première respiration d'intelligence qui acquiert son autonomie quand elle atteint la réalité en tant qu'elle existe, en tant qu'elle est, et qu'il dit ceci est, que je ne m'arrête pas à ce qui est dit, mais que j'atteins la signification profonde de ce qui est dit. Alors à ce moment-là, vraiment, l'intelligence acquiert son autonomie. C'est ça qui est de si grand dans la philosophie première. Tant que vous n'atteignez pas ça, vous restez quelqu'un qui est un peu prisonnier des opinions. Et ce n'est plus la réalité qui vous conduit. Et ce n'est pas la vérité que vous saisissez. Vous saisissez des opinions. Celui-ci a dit ça, celui-ci a dit ça, celui-ci a dit ça. Oui, il a dit, il a dit, il a dit. Et ce n'est pas la réalité. La seule réalité qui m'intéresse prodigieusement en philosophie, c'est l'homme. Alors c'est ça le privilège merveilleux du philosophe. C'est que le philosophe a son laboratoire chez lui. Il peut dire je suis. Mais très vite, il s'aperçoit que rester dans ce laboratoire risque qu'il n'y ait pas de fenêtre. On risque d'identifier l'être et mon « je suis ». Et quand vous identifiez l'être et vous, c'est pas fameux pour l'être. Parce que l'être s'étend à toutes les réalités qui existent. Et donc très vite, vous ouvrez les fenêtres pour saisir dans le « je suis » ce qu'il y a de premier. Entre parenthèses, l'être. Alors évidemment, c'est la même chose, ceci et ceci.